Radio Kapi.
Le journal présenté par Pascal Masirika.
Avant de vous dérouler ce journal, d'abord les titres. Massacre de 50 civils le week-end dernier dans la chefferie de Bouito au Nord Kivu. Les FARDC attribuent ce carnage aux rebelles du M23 RDF. Un notable de Rutshuru appelle le gouvernement congolais à saisir au plus vite le Conseil de sécurité des Nations Unies. Encore un naufrage sur le fleuve Congo dans le Maïndombe le week-end dernier. Le bilan fait état de 7 morts et de 107 rescapés. À la base, une collision des deux baleinières dont l'une de la RDC et l'autre du Congo-Brazzaville. Notre invité, c'est le chargé du tourisme et de l'alimentation au centre de réhabilitation des primates de l'Uiro, créé en 2002 pour détraumatiser les animaux orphelins. Luc Itongwa explique comment se font quotidiennement les visites de ces animaux. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, 50 civils ont été massacrés entre le 21 et le 23 octobre dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru. Dans un communiqué, les FARDC attribuent ce carnage aux rebelles du M23 RDF. Un notable du milieu parle d'une soixantaine de personnes qui ont été tuées. Il réclame par conséquent une enquête des organisations des droits de l'homme et que le gouvernement congolais saisisse le Conseil de sécurité des Nations Unies quant à ce à Goma, Sifamagourou.
Dans un communiqué de presse publié le 24 octobre, le porte-parole militaire au Nord Kivu informe l'opinion que les terroristes du M23 ont massacré 50 citoyens congolais et ont incendié des maisons dans les villages Runzenze, Bichusha et Marangara. Pour sa part, Isaac Kibira, notable des Bambo, dénonce des tueries barbares et toute forme d'exaction commises par les rebelles du M23 dans cette région.
Tongo, on a tué 2 personnes et violé 4 femmes. Marangara, on a tué plus de 37 personnes. Runzenze, on a tué 2 personnes. Hohe, on a tué 4 personnes. Au niveau de Rutshuru, on a tué aussi 2 personnes là-bas. Alors, si nous compilons le bilan provisoire, nous sommes à plus de 60 personnes tuées depuis qu'il y a l'incursion de M23 dans la zone de Tongo, là où il est en train de tuer aveuglément la population civile qui n'a pas les moyens de se défendre. Dans les champs, dans les maisons, un peu partout, ils sont en train de tuer la population. Pillage systématique.
Notez que dans un autre communiqué du 24 octobre, le M23 rejette ses accusations sur les tueries des civils et affirme que Tongo était les bastions des FDLR depuis des décennies. Goma, Sifamagourou, Radio Okapi.
Nord Kivu encore au lendemain de l'attaque de la commune d'Oicha par des rebelles ougandais de l'EDF. La circulation a repris timidement ce mercredi, mais les écoles restent fermées. Les autorités locales qui appellent à l'apaisement assurent qu'une mission d'enquête ira à Oicha pour évaluer cette attaque qui a coûté la vie à 26 civils. Un reportage à Beni de Marc Marofimbo.
La vie tournée au ralenti ce mercredi à Oicha. Quelques boutiques ont bien ouvert leurs portes ainsi que des lieux de vente de médicaments qui font l'office des pharmacies. Mais toutes les écoles restent fermées. Au marché central d'Oicha, ce n'était pas non plus la grande foule des jours ordinaires. À peine quelques étalages sont occupés par les vendeurs. Pourtant, les jeudis, c'est les jours du marché. Non loin de là, on peut voir ça et là des habitants occupés à ramasser du haricot et quelques sacs de farine de maïs épargnés par les feux à la suite de la colère des populations hier au site de distribution de vivres aux déplacés. Oicha est encore sous le choc. Au lendemain du massacre d'au moins 26 personnes, dont 12 enfants lundi soir, dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF. Hier, une vive tension a secoué cette commune rurale où des jeunes en colère ont incendié 3 véhicules affrétés par une agence humanitaire de l'ONU qui transportait des vivres destinés aux déplacés. Le colonel Charles Euta Omeonga, administrateur militaire du territoire de Beni, appelle la population au calme.
La population de Oicha, ayez vos apaisements, laissez les services de sécurité faire son travail. En dehors de ça, il y a toute une délégation qui vient de par-ci par-là pour venir enquêter et savoir qu'est-ce qui se passe à Oicha.
Signalons que des échanges sont actuellement en cours entre les autorités et la société civile d'Oicha pour l'enterrement des personnes tuées lors de cette attaque. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, nous venons de l'apprendre. 7 personnes tuées et 107 rescapées, c'est le bilan du naufrage survenu samedi dernier sur le fleuve Congo, près de Ngabengé, dans le territoire de Bolobo, province du Maïndombe. L'administrateur du territoire affirme à Radio Okapi que le nombre de disparus n'est pas connu faute de manifeste. Jonathan Eboma parle de la collision des deux baleinières, dont l'une de la RDC et l'autre du Congo-Brazzaville. À la base du drame, la navigation nocturne et l'imprudence du conducteur. Il a été joint par Irène Bomaluzolo.
C'était une collision de deux baleinières. L'autre baleinière, c'est les baleinières des pays en face de la République du Congo, Congo-Brazza, et l'autre baleinière de la République démocratique du Congo, RDC. Celle de la République démocratique RDC, c'était en provenance de Kinshasa pour la province du Sud, Ubangi. Cette collision avait eu lieu au niveau du village Ngabengé, dans le territoire de Bolobo, province de Maïndombe. On a connu un cas de naufrage. Actuellement, nous avons une statistique de 107 rescapés, 7 morts et comme on n'a pas la liste de tout le monde qui était dans cette embarcation, nous ne connaissons pas vraiment le nombre de disparus. Mais nous avons rien que la statistique des rescapés et des corps retrouvés, tous du Congo-Brazzaville. Du côté de la bannière de la RDC, il n'y a aucune perte de vie humaine. La première cause, c'était la navigation nocturne. Et la deuxième cause, c'était l'imprudence de la part du conducteur de la baleinière du Congo-RC. Il avait dévié sa bande pour arriver à notre côté. Le bilan définitif pour nous, c'est 7 morts.
Et ici à Kinshasa, le président du caucus des sénateurs de l'Équateur salue la mémoire des victimes des deux naufrages survenus à Mbandaka le 14 et à Bolomba le 21 octobre. C'est confiant à la presse hier ici à Kinshasa, Tristan Etumba demande au gouvernement congolais d'engager au plus vite des réformes pour améliorer la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents. Ces propos ont été recueillis par Tati Mapuku.
Je vous rappelle que ça fait 400 personnes qui sont mortes lors de ces naufrages, de ces que nous appelons bateaux de fortune Ibora plutôt. Ce sont des atteintes graves contre l'humanité qui sont encore portées, qui frappent notre pays alors que donc nous ne pouvons que être attristés. Donc ici, il s'agit pour nous d'interpeller encore la responsabilité du gouvernement. Il faudrait une certaine assumation de responsabilité de ce corps qui est appelé à gérer la politique multisectorielle de l'État, la politique du transport. Je vous signale que le gouvernement doit savoir que le fleuve constitue une sorte d'autoroute fluviale et que le gouvernement peut mettre des moyens logistiques à disposition pour que les Congolais puissent vaquer librement dans leur façon de circuler, tant pour faire du transport au niveau commercial, mais tant aussi pour faire du transport au niveau touristique.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce soir, sachez que les organisations de la société civile du territoire de Banalia, situé à 128 km au nord de la ville de Kisangani, dans la Tchopo, dénoncent ce qu'elles qualifient d'exploitation illégale des minerais dans le secteur de Baboa décollé par les sociétés Oracle Mining et Bouine. Les activités de ces entreprises minières avaient été suspendues depuis le 8 octobre dernier et leur personnel ramené à Kisangani sur instruction du ministre provincial de l'Intérieur. Les habitants de la zone ne comprennent pas comment ces agents sont rentrés à Banalia. Dénonciation faite hier à Kisangani lors d'un point de presse. Des précisions avec leur porte-parole. Les propos de Maître Stéphane Ombona ont été recueillis par Jacques Mkongole.
Ces sociétés exploitent dans l'illégalité car ne disposant d'aucun titre minier et ou de carrière dans le secteur de Baboa Décollé. Elles se contentent de signer des contrats léonins avec certains administrateurs de certains foyers miniers en leur proposant des forfaits mensuels allant de 2000 à 3000 dollars américains en contrepartie de leur exploitation illégale, alors qu'aucune personne de nationalité congolaise ne connaît les statistiques de production de ces sites. Considérant que l'exploitation minière dans cette entité constitue un pillage systématique de nos ressources sans contrepartie de la communauté, nous exigeons la suspension sans délai des travaux d'exploitation de ces sociétés pour leur permettre de se conformer aux exigences légales, notamment la signature des cahiers de charges avec la communauté de secteur Baboa Décollé. Sans quoi, nous nous réservons le droit de mener des actions sur terrain et saisir les instances judiciaires pour faire entendre nos voix.
En réaction à cette préoccupation, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Norbert Lukula, parle de quelques ouvriers qui sont rentrés à Banalia pour assurer la protection de leur matériel. Et puis la construction de la route nationale numéro 1, axe Mbujimayi-Kananga, évolue à pas de tortue depuis février dernier. Ces travaux, exécutés par l'entreprise égyptienne Samkret, s'inscrivent ainsi dans le cadre du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Ces travaux sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie pour une durée de 36 mois. Suite au ralentissement de ces travaux, plusieurs voix s'élèvent pour exiger au plus vite le remplacement de l'entreprise Samkret par une autre entreprise, comme l'explique Mbujimayi Esther Ndalafina.
Depuis le lancement des travaux au mois de février 2022, Samkret a déjà fait le terrassement sur une distance de près de 15 km sur les 188 km de route pour lesquelles l'entreprise a gagné le marché auprès du Fonds de promotion de l'industrie. Au mois de mai dernier, Samkret s'est déployée au niveau du site Bachala à une dizaine de kilomètres de la ville où elle a posé les géotextiles sur près de 6 km de route. Bien avant ce déploiement, les travaux amorcés à partir du rond-point Petrombo en Mbujimayi ont été interrompus car Samkret a déclaré que certaines infrastructures constituent des obstacles à l'état d'avancement des travaux de modernisation de la voie routière. Ces infrastructures ont fini par être dégagées. Cependant, depuis le redéploiement de Samkret sur la ville au mois d'août dernier, l'entreprise égyptienne a posé les géotextiles sur près de 3 km de route à partir du rond-point Petrombo sur l'avenue Inga. Deux autres kilomètres sont creusé à 1 mètre de profondeur et créé plusieurs couches d'eau stagnante sur cette artère principale, perturbant ainsi la circulation des personnes et de leurs biens pendant cette période pluvieuse. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Allons maintenant au Sud Kivu où a été lancée mardi dernier la facilitation et l'intégration dans la région des Grands Lacs. Il s'agit d'un projet du gouvernement congolais qui a coûté à la Banque mondiale 150 millions de dollars américains. Objectif affiché, faciliter le commerce transfrontalier, améliorer les infrastructures et simplifier également les procédures pour le petit commerce. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elemejua Kabedi.
Le projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région de Grand Lac vise l'accessibilité au marché et l'accompagnement de producteurs locaux, mais aussi le cadre réglementaire du commerce transfrontalier.
Il sera question de la simplification des procédures pour les petits commerçants et réformes politiques. Il sera question de la mise en œuvre des systèmes de frontières intelligentes et aussi il sera question de l'intégration régionale de la coordination et du suivi dans les cadres du COMESA.
Ce projet vise également l'amélioration des infrastructures commerciales de base.
Il y aura la réhabilitation et la modernisation des postes frontières de Kavimvira, Nyamoma, le poste frontière de Rubenga et celui de Kamanyola et de Kiliba. Il y aura la construction et l'aménagement des marchés transfrontaliers, notamment à Bunagana, à Bukavu, à Kavimvira et à Kasindi. On fera la réhabilitation de la voie d'accès aux postes frontières de Rubenga, les ponts entre la RDC et le Burundi sur la rivière Ruzizi.
Signalons que ce projet aide la RDC à répertorier tous les mouvements aux frontières. C'est notamment la quantité de légumes, de farines, fruits et même le nombre de bétail qui traversent nos frontières. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis en Ituri, une trentaine de femmes issues des différentes entités coutumières du territoire d'Irumu s'engagent à œuvrer pour la cohésion sociale. C'était au cours d'un atelier de renforcement des capacités de deux jours qui a été lancé mardi à Bogoro, cité située à 25 km au sud de la ville de Bunia. Cette activité est organisée par la section genre de la MONUSCO afin de prévenir les tensions politiques. Pour en parler, retrouvons à Bunia Jean-Claude Lokidile.
Bogoro, où se tient cet atelier, est l'une des entités sinistrées qui, vers les années 2000, a subi les affres de la guerre à cause des conflits interethniques. Pascaline Matoya estime qu'il est important de consolider l'élan de cohabitation pacifique qui s'observe dans cette zone où les populations des différents groupes ethniques sont fréquentes sans problème.
À voir comment les populations des cotonniers de Bogoro se fréquentent, nous ne voulons plus que les tireurs des ficelles viennent déstabiliser nos entités en voulant inciter les deux communautés à ne plus se fréquenter.
ta relation et tout.
Le but de la démarche de la section genre de la MONUSCO est également d'inciter les femmes leaders à être des actrices de paix durant toute la période électorale. À cette occasion, Patience Tandek invite ses collègues femmes à ne pas se fier aux cadeaux que vont ramener les candidats, mais plutôt à voter pour ceux qui réellement vont défendre les causes de la population.
Avant de voter pour un candidat, il faut bien réfléchir et se demander si réellement il mérite notre confiance. Nous voulons élire des personnes qui vont nous aider. Ils vont acheter votre conscience, mais après les avoir élus, ils s'en vont.
Les participantes proviennent des différents villages, dont Kotoni, Lagabo, Bogoro, dans les secteurs de Walendu Tati, Bahema Sud et la chefferie de Walendu Bindi. De retour de Bogoro, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les négociations entre l'armée et les paramilitaires en guerre depuis plus de 6 mois au Soudan vont reprendre bientôt sous la médiation américano-saoudienne à Jeddah en Arabie Saoudite. Annonce faite ce mercredi par l'armée nationale dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le bilan de ce conflit dressé par les Nations Unies fait état de plus de 9000 morts et plus de 5 millions de personnes déplacées ou réfugiées. Différentes tentatives de médiation entre les deux parties ont plusieurs fois échoué. L'armée nationale affirme aujourd'hui que la reprise des négociations ne signifie pas du tout l'arrêt de la bataille. Les paramilitaires, quant à eux, n'ont pas encore annoncé leur position au sujet de ces négociations. Et puis la France va envoyer un navire de la marine nationale en Méditerranée orientale pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Annonce faite ce mercredi par le président Emmanuel Macron au Caire, ajoutant qu'un avion chargé de matériel médical va arriver demain jeudi dans la matinée en Égypte. C'était à l'issue d'un entretien avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Notez que l'aide humanitaire s'accumule actuellement en Égypte depuis des jours avant de passer au compte-gouttes à Gaza, aux grandes dames de l'ONU.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé du tourisme et de l'alimentation des animaux au centre de réhabilitation des primates de l'Uro pour détraumatiser les primates orphelins. Luc Itongwa explique comment se font les visites de ces animaux et s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Monsieur Luc Itongwa, bonjour.
Oui, bonjour.
Ici, nous sommes au centre de réhabilitation des primates de l'Uro. C'est quoi ?
Le centre de réhabilitation des primates de l'Uro, c'est là où on prend soin des animaux sauvages. Les animaux qui étaient capturés dans les mains de braconniers et des trafiquants. Ce centre d'abord a été créé en 2002 par 3 organisations, notamment ISSN, CRSN et ONG Coopéra. ISSN a comme rôle de récupérer tous les animaux qui sont dans les mains des deteneurs et de porter ici à l'Uro. Et le centre de l'Uro donne l'espace là où on va garder ces animaux. Coopéra prend soin de ces animaux-là. Ici, nous gardons les animaux qui sont récupérés dans les mains des braconniers et des trafiquants, comme les chimpanzés et les singes traumatisés et orphelins.
Vous êtes là pour réhabiliter ces primates. Qu'est-ce que vous faites pour détraumatiser ces animaux ?
Pour détraumatiser, on les garde ici pour un temps et un jour on va les remettre dans leur milieu naturel. On est en train de protéger ces animaux pour qu'on ne puisse pas les perdre dans notre pays.
Et ce sont des animaux qui ont connu quoi comme traumatisme ?
Donc, dans les crimes de guerre, ils ont tué leurs parents, frères et sœurs et pour qu'on puisse les prendre et les faire le trafic.
Et il y en a même qui ont été aussi détenus par des personnes privées.
Oui. Tous les animaux qu'on a ici, on avait récupéré ça des braconniers, des trafiquants et des soldats.
Ici, donc, c'est un peu comme un orphelinat, mais des animaux, des singes.
Oui, c'est un orphelinat parce qu'on les garde ici pour prendre les soins, pour les nourrir jusqu'à ce qu'on va les remettre dans la forêt.
La période de détraumatisation, ça prend combien de temps?
Ça peut prendre au moins 3 à 4 ans, mais on attend jusqu'à ce que la guerre va se terminer. Donc c'est ça où le traumatisme va se terminer.
À ce jour, combien de singes vous détenez ici au sein du centre de réhabilitation?
Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on a déjà récupéré des braconniers et des trafiquants. On a déjà récupéré 135 chimpanzés, plus de 215 petits singes.
Et c'est quoi l'objectif de ce centre?
Notre objectif, c'est la réintroduction, de les remettre dans leur milieu naturel.
Et jusqu'à présent, depuis 2002, combien ont déjà été réintroduits dans leur espace naturel?
On ne peut pas le faire parce qu'ils sont récupérés dans la guerre. Jusqu'aujourd'hui, le Congo se trouve dans la guerre. On peut le faire, mais on ne peut pas mettre les espèces qu'on a en danger. Parce que dans la forêt, il y a les milices, il y a les braconniers, il y a les trafiquants, même il y a les soldats. Ils peuvent tuer ces animaux-là. Si on fait la visite, donc, vous voyez, la capacité de charge est élevée. Un petit rien qu'on donne ici, c'est pour aider, de nourrir et de prendre soin pour ces animaux ici qu'on a. Si on fait la visite, c'est parce que ce sont les animaux congolais. Deux, les Congolais doivent connaître ici il y a quelque chose et ici il y a quel animal. Et les expatriés, les touristes, ils doivent connaître qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en danger, qui sont vraiment à niveau de disparition. C'est ça.
Quels sont les types des singes que vous détenez dans ce centre?
On a les chimpanzés communs. Pour les singes, on a le métis, on a le colobis, on a le ascanius, on a le mangabé, on a le babouin, on a le hamlini, on a le c'est ça.
Et vous nous avez fait comprendre que les animaux qui sont ici ne sont pas là pour but de reproduction.
Non, parce que la capacité de charge est élevée. Un, chaque individu consomme $50 par mois. Si on fait la reproduction, on va se limiter de 2, l'espace est limité. Nous nous occupons 10 hectares, il n'y a pas moyen. Pour ne pas se reproduire, on met la contraceptif pour les femelles. Ceux qui n'ont pas le contraceptif, on leur donne la pilule.
Vous êtes chargé de l'alimentation de ces animaux. De quoi se nourrissent ces singes que vous avez cités?
Ils se nourrissent de fruits comme goyave, avocat, mangue, tomate, patate douce, choux, maïs, haricots, prunes, tout ça.
Et quelle quantité par jour?
Par jour, chaque individu, pour les chimpanzés, il peut prendre par jour 7 à 8 kilos.
Et vous, en tant que chargé du tourisme aussi dans ce centre, quel conseil vous allez donner à ceux qui détiennent illégalement ces singes-là?
Le conseil que je peux donner, amener ces animaux et de nous appeler. On a quel animal? Et nous, de venir auprès d'eux, de prendre ces animaux-là, de venir les garder ici au CEREPEL, Centre de réhabilitation des primates de l'Uro.
Je vous remercie.
Moi aussi, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé du tourisme et de l'alimentation des animaux au Centre de réhabilitation des primates de l'Uro au Sud Kivu, Luc Itongwa, interrogé par Rachel Kisembangoué. C'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Alouzi Tukabambi et Pele Kipelamondo qui m'ont accompagné.